qu'on la confond souvent avec l'ordinateur lui-même.
Voici un réfrigérateur à dilution. Beaucoup de gens pensent que cette machine absolument sublime est un ordinateur quantique. Mais ils se trompent. Ce n'en est pas un. L'ordinateur, le voilà. C'est cette puce minuscule. Ça, en fait, c'est un congélateur. Mais force est de constater qu'il est vraiment très beau. Toutes ces pièces qui brillent de mille feux ne sont que des tuyaux et des câbles conçus pour maintenir l'ordinateur quantique à une température extrêmement froide, moins 273 degrés Celsius. On est à quelques millikelvin au-dessus du zéro absolu. Ce froid cryogénique est nécessaire parce qu'on utilise des supraconducteurs pour faire nos qubits. On veut éviter au maximum le bruit ou les variations thermiques qui peuvent perturber les qubits et les rendre inopérants.
Depuis 2016, IBM met à disposition du public ses ordinateurs quantiques via Internet. N'importe qui peut mettre au point un algorithme quantique, analogue à un programme informatique classique, et le soumettre à l'ordinateur.
Depuis qu'on les a mis sur le cloud, nos ordinateurs ont exécuté plus de 3000 milliards de tâches.
Pour exécuter un algorithme sur un ordinateur quantique, il faut paramétrer l'état initial des qubits, puis les manipuler en suivant plusieurs étapes. Pour ce faire, IBM utilise sur ses systèmes des impulsions micro-ondes.
Ces impulsions micro-ondes basculent le qubit, le placent en état de superposition et le mesurent.
Une fois les manipulations effectuées, les qubits sont lus et leur état quantique s'effondre, donnant soit un 0, soit un 1. Mais il y a un hic.
Il peut y avoir destruction spontanée des qubits à partir de l'état excité, ou en passant de l'état 1 à l'état 0, et ce au mauvais moment. Et ça peut se produire environ toutes les millisecondes. Ces erreurs sont inhérentes à la nature quantique de l'appareil.
Corriger ces erreurs est l'un des plus grands défis de l'informatique quantique. Les ordinateurs quantiques actuels n'étant pas capables de le faire seuls, une dernière étape est donc nécessaire.
L'information ressort, elle est envoyée vers un ordinateur sur lequel on procède à l'atténuation des erreurs, on traite les résultats, on corrige le bruit et on renvoie le tout dans le cloud.
Il est facile d'imaginer que l'informatique quantique succédera à l'informatique classique et que bientôt, vous verrez s'afficher sur votre écran une fenêtre 10 ans avec la nouvelle puce Qubitium.
La question qu'on me pose sans arrêt, c'est « Quand est-ce que je pourrais jouer à Minecraft ou à Doom sur un ordinateur quantique ?»
Les ordinateurs quantiques ne sont pas adaptés à toutes les tâches. Il n'y aura jamais de PowerPoint ou de Word quantique.
Ça ne servirait à rien. Nos PC et nos consoles de jeux sont parfaitement adaptés à ce genre d'application.
Les ordinateurs quantiques fonctionnent très différemment et sont destinés à des tâches bien précises. Les spécialistes envisagent une utilité dans des domaines tels que la simulation de comportements quantiques en chimie et en sciences des matériaux. Et pour l'optimisation de systèmes complexes, comme les réseaux de distribution de l'énergie ou la recherche via des bases de données. Quoi qu'il en soit, l'avenir de l'informatique quantique n'est pas encore écrit.
Les choses progressent très vite partout dans le monde. Et je pense qu'on verra très bientôt un ordinateur quantique exécuter une tâche totalement hors de portée des machines actuelles. Ça devrait être possible d'ici 5 à 10 ans, à mon avis.
L'avenir de l'informatique comprendra des coprocesseurs classiques, des coprocesseurs d'IA et des coprocesseurs quantiques qui travailleront de concert. Et à mon sens, le plus palpitant sera de réussir à exploiter ces différents coprocesseurs.
Je pense qu'un ordinateur quantique performant parviendra à exécuter certaines tâches beaucoup plus rapidement. Mais premièrement, on n'en est pas sûr. Et deuxièmement, et c'est mon côté pessimiste qui parle, on risque de découvrir que ces tâches sont finalement très limitées et hautement spécialisées. Mais ces travaux de recherche n'en demeurent pas moins captivants.
La physique quantique est né il y a plus d'un siècle. Et bien que nous ne commencions à maîtriser le domaine quantique que depuis peu, ces quelques décennies ont suffi à révolutionner le monde dans lequel nous vivons.
Les systèmes quantiques qu'on est capable de construire et de manipuler ont radicalement évolué.
La mécanique quantique fait déjà partie de notre quotidien. Elle nous permet d'agir sur le monde. Elle est dans chaque transistor et chaque ordinateur.
Elle décrit les interactions fondamentales qui régissent l'univers. Et on a besoin de comprendre l'infiniment petit pour accomplir de grandes choses.
Les mystères à élucider n'ont pas disparu. Mais ce qui a augmenté, que je trouve remarquable, c'est le nombre de propriétés quantiques toutes plus curieuses et stupéfiantes les unes que les autres, qui font désormais partie de notre quotidien.
Mais que nous réserve l'avenir ? Qu'est-ce que la technologie quantique aura à nous offrir dans les prochaines décennies ?
Comme on dit à nos enfants, j'ai connu le monde avant Internet, ou avant les smartphones. D'ici 50 ans, les gens parleront de technologies qui seront normales pour eux et qu'on ne peut même pas imaginer aujourd'hui.
Je pense que dans 50 ans, l'intrication ou la superposition quantique n'étonneront plus personne. Ce sera devenu banal.
Ce que j'adore dans la mécanique quantique, c'est qu'elle nous semble totalement contre-intuitive. Elle nous dit que quelque chose se joue au-delà de ce qu'on pense comprendre. Notre intuition n'est pas toujours fiable. Pour avancer, on doit s'en remettre à la compréhension du monde que nous apporte la mécanique quantique.